vais avoir l'honneur et le plaisir de vous raconter et la plus vieille et la plus belle histoire que nous connaissions.
Les textes illustres du Moyen-Âge avec Michel Pastoureau. Aujourd'hui, Chrétien de Troyes et le Comte du Graal.
Il y a dans le monde un trésor captif dans un château enchanté, Corbenic. Un objet de grande merveille, le Graal. Pour qui le voit, ses yeux s'ouvrent et ses oreilles entendent. Il comprend le cœur des mondes et le langage des oiseaux. Le Graal est suffisance, extase et vie meilleure. Il est soif et étanchement, dépouillement et plénitude, possession et ravissement.
Devant lui, les chandelles en perdent leur lumière comme la lune quand le soleil se lève. Dans le Conte du Graal, le dernier des romans de Chrétien de Troyes, cet objet étrange n'est présent que fugitivement, mais depuis n'a pas manqué son effet, il est partout. C'est l'ultime réussite de Chrétien de Troyes. Pendant quelques siècles, son nom avait été enseveli. Il a ressurgi au XXe et c'est justice. À la fin du XIIe, il a été en effet l'écrivain le plus important, le plus lu, le plus admiré, celui qui se renouvelait le plus aussi. Avec lui, le roman a commencé à supplanter la chanson de geste. Il a joint ses séductions à celles de la tradition antique retrouvée. Habitué de la cour de Champagne et peut-être d'autres, Chrétien de Troyes savait s'adresser à la fois aux auditrices et aux chevaliers qui s'y tenaient. Aux uns, aux autres, il tendait un miroir avec ses descriptions de l'entourage du roi Arthur. Et il appelait à un accomplissement spirituel de la chevalerie qui n'était pas, selon lui, qu'honneur, prouesse, amour courtois. Le Graal, c'est d'abord ce dépassement. C'est bien pour cela qu'à la fin du conte de Chrétien, la route de Perceval, mais aussi celle de Gauvin, l'autre héros, reste incertaine, ouverte, comme tendue vers un horizon.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Eh bien, Michel Pastoureau, heureux de vous retrouver.
Bonjour.
Je dis qu'on vous retrouve, mais on ne sait pas très bien comment vous classer. J'ai vu que votre séminaire de l'École des hautes études, dont le titre est...
Symbolique médiévale, symbolique moderne.
Oui, mais ça se tient à l'École supérieure de chimie.
Oui, ça c'est parce qu'elle me donne l'hospitalité. J'ai beaucoup d'auditeurs et d'étudiants, donc il faut un amphi assez grand. Et l'École nationale supérieure de chimie, où ma mère a enseigné, dispose de cet amphi.
Et aux éditions du Seuil, qui est votre maison familiale, vous publiez cette année un journal chromatique et vous dites que les libraires ne savent pas où ranger vos livres.
Oui, c'est vrai, je suis à cheval entre l'histoire de l'art, un peu la sociologie, l'anthropologie beaucoup, parfois d'autres disciplines, travaillant sur l'histoire des couleurs d'un côté, l'histoire des animaux de l'autre, ou ranger en effet des livres qui touchent au vocabulaire, à la société, à la chimie et à la physique, à l'histoire naturelle, aux croyances, aux superstitions, aux représentations, à l'histoire de l'art. En effet, pour un libraire, c'est assez difficile.
Et alors, pour un libraire d'occasion, toujours dans le même journal, vous racontez que vous avez un jour retrouvé votre premier livre, La vie quotidienne, au temps des Chevaliers de la Table Ronde. Et
je l'ai retrouvé chez un libraire d'occasion, dans une vitrine, avec écrit « État presque neuf, avec envoi de l'auteur ». Ça a chatouillé ma curiosité. À qui avais-je dédicacé ce livre? Jamais ouvert, puisqu'il était presque neuf. Malheureusement, la librairie était fermée. J'ai envoyé ma fille acheter le livre le lendemain, moi-même n'étant pas parisien, ce jour-là. Et elle me l'a confié à mon retour. Et il y avait une dédicace qui n'était pas du tout de moi, mais d'une certaine Suzanne, qui écrivait à un certain Raymond. Pour Raymond, ce livre qui parle des temps anciens, en souvenir de notre petite chienne.
Bon, c'est bien, vous ne vous prenez pas au sérieux. On vous prend au sérieux quand on vous prend comme conseiller historique de tournage de films Le Long de la Rose. Et puis, ça va être notre sujet aujourd'hui, Perceval le Gallois.
J'espère qu'on prend au sérieux.
Pourtant
Pourtant, j'ai fait quelques bêtises. Dans Le Nom de la Rose, par exemple, j'ai oublié qu'au XIVe siècle, les cochons n'étaient pas roses, mais noirs, gris ou bruns, où il y avait une scène avec des cochons, et nous n'avions pas le temps de peindre, de chercher des cochons noirs, et nous avons dû peindre en noir des cochons qui étaient roses à la bombe. Ça fait une scène très gore.
Alors, au générique du film de Romer, Perceval Le Gallois, vous apparaissez en un peu moins grand que Fabrice Lucchini, peut-être.
Il était tout jeune, mais moi aussi, mais j'étais timide et mon rôle était de simple conseiller historique. Rencontre avec Éric Romer pour préparer ce qui concernait les costumes, les couleurs, les armoiries, les pièces d'armement, ce genre de choses, quoi, les chevaliers de la table ronde à la fin du XIIe siècle.
Souvenir de Fabrice Lucchini, alors devenu une vedette et qui s'exprime ici sur son début de carrière devant un public tout à fait acquis et il n'y va pas avec le dos de la cuillère.
Hiver 78, au studio d'Épinay-sur-Seine, Éric Romer prépare le tournage de Perceval le Gallois d'après Chrétien de Troyes, poète et conteur du Moyen-Âge. Répétition après répétition, le chef-d'œuvre de Chrétien de Troyes reprend vie dans une traduction nouvelle d'Éric Romer, plus conforme à l'oreille d'aujourd'hui.
Vassal, venez au roi, vous y viendrez, oui, par ma foi, ou bien vous le paierez moult fort.
Donc, Chrétien de Troyes, 1190, et il traduit ce merveilleux texte que personne ne comprenait, qui n'était pas du tout du vieux français à la Villon. C'était une sorte d'occitan, tu vois, mais hallucinant, et Romer. Il y en a qui vont dans des clubs d'échangistes, il y en a qui vont faire du soir. Et ben Romer, lui, il a mis 2 ans de sa vie à traduire les 9234 vers de Chrétien de Troyes. Il y a des gens bizarres. Et ben lui, il en a fait partie, il s'est dit, je vais me le faire, moi, le Chrétien de Troyes.
Attendez, il hallucine, là, Lucchini, de l'occitan.
Oui, on est très loin de l'occitan. Il s'agit d'ancien français, dialecte aux confins du champenois et du picard, qui n'est pas si difficile à comprendre à condition de le lire aujourd'hui à haute voix. J'avais essayé, moi, de convaincre Éric Romer de ne pas traduire en vers modernes les vers de Chrétien de Troyes, mais j'étais un peu timide, je ne suis pas allé au bout de ma démonstration. Éric Romer a maintenu son envie de traduire Chrétien en vers.
Alors on retient l'idée que c'était copié, il a été copié beaucoup de fois. Chrétien de Troyes, c'est peut-être l'auteur de l'époque dont on a le plus de copies manuscrites, mais c'était fait pour être entendu.
Oui, cette littérature est faite pour être entendue et entendue collectivement. Il y a quelqu'un qui lit et tout autour de lui, des auditeurs qui écoutent et qui probablement commentent et réécoutent. Donc c'est une littérature qui est faite pour l'oral.
Et vous parlez des auditeurs. Les auditeurs sont dans des cours et vous parlez d'un champenois. C'est la cour de Champagne ?
C'est la cour de Champagne, qui est une des grandes cours littéraires de cette fin du XIIe siècle. Chrétien de Troyes, d'ailleurs, se nomme lui-même de cette ville. On ne sait pas si c'est son lieu de naissance, si c'est son nom d'origine, si c'est une activité quelconque, clerc, chanoine. En tout cas, il a fréquenté la cour de Champagne. Il a été protégé par le comte Henri le Libéral, et surtout sa femme, Marie, qui est la fille du roi de France Louis VII et de la reine Aliénor d'Aquitaine. C'est une princesse admirée, une princesse lettrée qui protège les poètes, dont Chrétien, et qui lui confie même le sujet d'un livre, Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, qu'il a écrit quelques années avant le Conte du Graal.
Alors la date que donne Lucchini est à peu près exacte, même si on ne sait pas la date de naissance de Chrétien de Troyes, et nous sommes en cette fin du XIIe siècle, dans une époque de crise politique. Il y a un roi très jeune en France, Philippe Auguste. Il y a une puissante cour d'Angleterre, les Plantagenets, qui réunissent beaucoup de terres. Et voici que la comtesse Marie de Champagne, veuve maintenant, songe à épouser le comte de Flandre, et le roi de France est extrêmement inquiet. Et Chrétien de Troyes, est-ce qu'il a fréquenté d'autres cours que celle de Champagne ? Est-ce qu'il est allé à la cour d'Angleterre ? Est-ce qu'il est allé à la cour du comte de Flandre ?
On ne sait pas s'il a voyagé. L'usage, en effet, est qu'un poète, qu'il soit clerc ou chevalier, fréquente plusieurs cours. Dans le cas de Chrétien, il est probable qu'il a rencontré Philippe, comte de Flandre, à la cour de Champagne, puisque celui-ci courtisait, au sens moderne, Marie de Champagne, pour l'épouser. Et donc, Chrétien a dû le rencontrer à cette occasion. Et il nous dit que c'est lui qui lui a donné, comme commande, le sujet du Conte du Graal, sous forme d'un livre, mais il ne nous dit pas lequel, qui lui a confié, et Chrétien s'est mis au travail.
La cour du roi Arthur, qui est décrite dans plusieurs livres de Chrétien de Troyes, c'est le miroir des cours qu'il a fréquentées.
Oui, c'est à la fois le reflet, le modèle aussi des cours véritables, et puis c'est aussi autre chose, on est constamment entre réalité, littérature, rêve, imagination assez débridée. Le personnage du roi Arthur lui-même est un roi un peu à l'ancienne mode, c'est-à-dire un roi féodal, un roi qui doit prendre conseil, alors qu'en cette fin du XIIe siècle, Philippe Auguste, roi de France, est en train de devenir un roi autoritaire, un roi d'ancien régime presque, pas le monarque absolu bien sûr, mais la monarchie est en grande évolution et Chrétien met en scène une royauté qui est déjà un peu dépassée.
Un modèle, et un modèle puisé dans l'imaginaire, parce qu'il n'est pas sûr que le roi Arthur ait existé.
Non, bien sûr, pour l'imaginaire joue un rôle considérable dans les romans de Chrétien de Troyes, et ce roi Arthur, dont d'autres auteurs parlent avant lui, c'est peut-être un chef de guerre romano-breton qui s'est battu dans le nord de l'Angleterre, aux confins de l'Écosse, à la fin du 5e siècle, contre les barbares germains qui envahissaient l'île de Bretagne. On n'en sait pas plus.
Géographie imaginaire, la forêt dévastée. La narration commence autour d'un jeune homme qui ne sait pas son passé, qui ne sait même pas son nom. Il réside à l'écart dans la forêt dévastée avec sa mère et il va se mettre en route un beau jour.
Ce fut au temps qu'arbres fleurissent, feuilles au bois, verdure au pré, que dans leur latin les oiseaux chantent doucement au matin, que tout s'illumine de joie. Le fils orphelin de la dame entre dans la forêt perdue. Ayant harnaché son cheval pour la chasse et s'étant armé de javelots, il a franchi le seuil du manoir de sa mère, pensant qu'il irait visiter les champs où la dame faisait hercer la terre des avoines avec 12 bœufs et 6 herses. Lorsqu'il entre dans la forêt, il se sent tout le cœur en fête parce que la saison l'est gaie.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec toute cette semaine, Michel Pastoureau, nous étudions aujourd'hui, enfin le mot étudié est peut-être un peu sévère, nous lisons le conte du Graal de Chrétien de Troyes, dont l'une des deux histoires principales est celle de Perceval. La mère de Perceval, avant de s'évaporer, lui a donné de bons conseils.
Oui, de ne pas violer les femmes, en quelque sorte, de bien se comporter en toute occasion, de défendre les dames et les pauvres, et surtout d'aller à l'église chaque fois qu'il le peut, conseil que le jeune Perceval comprend plus ou moins bien.
Alors nous suivons un des conseils de la mère, écouter les hommes d'expérience. Mais c'est vrai que le premier conseil que vous indiquiez, le cher Perceval a quelques difficultés, parce que c'est un garçon à l'état sauvage, et quand l'occasion se présente...
L'attente est merveilleuse et riche. Ici, la couleur est vermeille, et là, verte, d'or froid cousu. Brodé dessus, une aigle d'or sous l'ardent soleil étincelle. Dans la tente qu'il trouve ouverte, un lit est dressé, recouvert d'une couverture de prix. Au lit, bien seul, reposait une demoiselle endormie. Sa compagnie était loin d'elle. Les suivantes étaient allées cueillir des fleurettes nouvelles pour joncher le sol de la tente comme elles en avaient coutume. Quand le garçon y veut entrer, son cheval achoppe si fort que la demoiselle l'entend. Elle s'éveille, elle tressaille. Le garçon dit de son air simple.
Demoiselle, je vous salue, comme ma mère me l'a pris. Je dois vous baiser par mon âme.
Reprends ton chemin, fuis sans que mon ami te voie.
N'en déplaise à qui vous voudrez, je dois faire selon l'usage.
De gré, je ne te baiserai jamais, si je puis l'éviter. Crains que mon ami ne te trouve, car s'il te trouve, tu es mort.
Le garçon de ses bras solides l'étreint, l'embrasse avec douceur. Il ne sait faire d'autre sorte que de s'étendre à côté d'elle, quoiqu'elle se fût défendue avec force rebellée. La défense ne sert de rien, et dans son ardeur, le garçon l'embrasse, qu'elle veuille ou non. 20 fois à ce que dit l'histoire.
Alain Cuny, Jean Topart. À ce que dit l'histoire, l'amour peut être contrôlé et le harcèlement sexuel, plutôt que de le réprimer, il faut apprendre à le maîtriser.
C'est le propre de l'amour courtois, qui est fait de la politesse des manières, de l'honneur fait aux dames, et le commerce charnel n'entre pas beaucoup dans les pratiques de l'amour courtois. On s'est interrogé pour savoir jusqu'où allait cet amour. À lire les poètes, et commencer par Chrétien de Troyes, on a l'impression que le héros, le chevalier, au fond, ne désire que le désir.
Attendez, là, il y a quand même tout un débat. Il y a des historiennes comme Estelle Doussat qui disent, ça c'est un point de vue d'érudits du 19e siècle qui pensent que l'amour platonique est possible. Vous êtes sur ce point de vue?
Non, je connais le débat, la controverse, elle porte aussi sur la poésie des trouvères et plus encore sur celle des troubadours. Chez les troubadours du Midi, tout est plus charnel. Chez ceux du Nord, c'est plus édulcoré et on a l'impression, dans les romans comme dans la poésie lyrique, que le héros, le poète, est amoureux de son état amoureux, quelque chose comme ça. Mais peut-être est-ce une interprétation trop moderne.
Mais c'est un clerc, Chrétien de Troyes, alors il appelle à la sublimation.
Oui, on pourrait penser comme ça. On n'est pas tout à fait sûr qu'il soit clerc, mais comme il est lettré, comme il a traduit Ovid, il est quand même très cultivé, il ne peut être que clerc. Ça recouvre des réalités assez vastes d'être clerc au Moyen-Âge. Est-ce qu'il est chanoine de la cathédrale de Troyes, comme on l'a dit? Est-ce qu'il est d'origine juive et converti? Est-ce qu'il est autre chose? Nous ne savons pas très bien.
Oui, mais n'esquivez pas le débat. Il appelle à l'approfondissement des sentiments.
Oui, constamment, mais il n'est pas le seul à le faire. Il faut approfondir ses sentiments. Et le chemin de l'aventure, le chemin de la quête, pour le chevalier errant, que sont ces héros de chrétiens, c'est le moyen d'y parvenir.
Alors, il n'est pas chevalier, Perceval, il va le devenir. C'est un livre d'apprentissage et c'est l'apprentissage qui mène à l'adoubement.
L'adoubement qui va se passer, non pas au début du roman, mais un peu plus loin, de la part d'un personnage qui enseigne à Perceval les règles de la chevalerie, qui l'invite à mieux se conduire, pas comme un sauvage, qui lui donne des vêtements dignes d'un chevalier, à la place des haillons forestiers que portait le jeune Perceval, et qui va l'adouber, qui va faire de lui un chevalier. Il entre
alors,
dans l'ordre de chevalerie.
Adoubement, on dit que c'est dans le conte du Graal que l'adoubement est le mieux, le plus précisément présenté.
Oui, on a d'autres textes qui nous expliquent le rituel. Ils sont un peu contradictoires. Il faut un parrain en chevalerie, qui fait entrer en chevalerie le personnage qui l'adoube en accomplissant un certain nombre de gestes, en lui remettant différents objets. Les plus importants sont l'épée et surtout les éperons, qu'on oublie trop souvent, et puis qui lui tape soit sur la nuque, c'est la collée, soit sur l'épaule. On a plus d'adoubements dans les chansons de gestes que dans les romans de chevalerie, bizarrement. Et ces adoubements de chansons de gestes sont souvent collectifs, et non pas individuels, comme dans les romans arthurien. Dans la réalité, on a quelques descriptions chez les chroniqueurs, mais elles sont plus tardives, elles datent du XIIIe siècle.
C'est une géographie imaginaire, on ne va pas parler de Beaurepaire, du pont de l'épée, de la pire aventure, de Blanche Fleur. Non, on va parler du château du roi pêcheur. À l'approche du château du roi pêcheur, vous allez nous faire reconnaître, après qu'on l'aura entendu, l'extrait de cette pièce de théâtre. Perceval rencontre un ermite.
Qui vient là?
Un chevalier en quête de son chemin, qui depuis ce matin n'a rencontré âme qui vive dans ces bois perdus. La paix soit avec toi,
La paix soit avec tous ceux qui viennent au nom du Christ. Tu parais bien fatigué. N'as-tu rien mangé non plus de tout le jour?
Cela s'appelle aller aux fêtes. Je suis mort de faim.
Alors, repose-toi et partage mon déjeuner. Tu ne feras pas grande chair, et il n'y a point ici viande rouge ni vin d'épices, mais la paix du Seigneur.
J'accepte avec joie. Si j'osais...
Quoi donc?
C'est cette gourde. J'ai aussi terriblement soif.
Prends donc. Mais c'est de l'eau pure. Tu têtes cette gourde comme un nourrisson affamé.
Ah, il n'y a pas de pareil délice. Je boirai le lac. Ah, c'est meilleur que tout.
Cœur de désir, où la parole divine tient bien peu de place. Tu viens donc du pays des païens.
Ah, première question, nous y sommes. Aussi, tu commençais à m'étonner.
Que veux-tu dire?
Que tu n'es pas curieux. Tu ne m'as pas encore demandé qui je suis. Allons, avoue, tu grilles d'envie de savoir.
Je sais déjà ce que tu m'as dit. Que tu es un enfant étourdi et enivré de sa jeunesse, et que tu as grand besoin qu'on t'enseigne le vrai chemin.
Encore de la morale. Va, je ne serai pas rancunier, tu le sauras tout de même. Je suis Perceval le Gallois.
Et c'est à peine s'il a appris les manières de table. Alors là, les chemins de Chrétien de Troyes sont tellement divers qu'au fond, on peut les quitter. Nous sommes où, là?
Là, nous sommes avec la pièce de Julien Gracq, Le Roi Pêcheur, écrite en 1948, jouée en 1949. Et Julien Gracq a suivi davantage le Parsifal de Wagner, lui-même inspiré par le texte allemand de Wolfram von Eschenbach, un adaptateur en langue courtoise du Moyen-Haut allemand du texte de Chrétien.
Donc, le Moyen-Haut allemand.
Le Moyen-Haut allemand, c'est la langue de l'Allemagne du Sud à l'époque de Chrétien de Troyes.
On fait encore un écart, c'est à peu près l'année de votre naissance. Julien Gracq, il a été formé par les surréalistes, et il vous intéresse parce qu'il est surréaliste aussi. On ne sait pas toujours cet aspect de Michel Pastoureau, fils et fier du surréalisme.
Oui, mon père était un proche d'André Breton et des surréalistes du groupe de Paris. Il a connu Julien Gracq. Je me souviens que mes parents m'ont raconté être allés voir la pièce Le Roi Pêcheur, qui n'a eu aucun succès. C'est la seule pièce de Julien Gracq, il n'en a plus écrit d'autres par la suite. Alors que c'est un très beau texte. Je pense que les décors étaient de Léonore Fini, si je me souviens bien. Il y avait de grands acteurs, dont Jacqueline Maillan jeune, et la critique a été très très sévère avec ce texte.
Au moins, vous savez votre filiation, vous. Perceval savait-il son nom et sa filiation?
Perceval ne savait pas son nom, et il a révélation de son nom en discutant avec une jeune femme qu'il rencontre après sa visite chez le roi pêcheur, et elle se révèle être sa cousine, elle lui demande son nom, et subitement, il sait son nom, alors que personne ne le lui avait appris.
Alors, on fait un épisode symétrique avant maintenant le roi pêcheur, la rencontre avec l'ermite dont on entendait un écho. Qu'est-ce que c'est que ces questions sur les questions ?
C'est quelque chose qui est très fréquent dans les romans de chevalerie. On pose des questions, on y répond ou n'y répond pas. La plupart des questions concernent d'abord l'identité, la parenté, le nom. Il y a des chevaliers qui ne veulent jamais dire leur nom. C'est le cas de Lancelot. D'autres qui le disent volontiers. C'est le cas de Gauvin. D'autres qui ne savent pas leur nom, comme Perceval au début du roman Le Comte du Graal. Ce problème du nom est très très important. D'ailleurs, la mère de Perceval lui a dit tout au début du roman, par le nom on connaît la personne. C'est une vieille idée qu'on trouve déjà chez des auteurs grecs et romains dans l'Antiquité.
Alors après l'épisode de l'ermite, avant l'épisode de la cousine, il y a la visite au château du roi pêcheur. Très beau château, et où apparaissent fugitivement deux objets, la lance qui saigne et le Graal.
C'est le cœur du roman, ce passage du cortège du Graal, alors que Perceval se trouve dans la grande salle carrée de ce château, en train de discuter avec ce roi handicapé, blessé, qui pêche, qu'il a reçu dans ce château. Ce cortège est étrange, il y a la lance qui saigne, il y a le Graal, il y a des cierges. Il aurait dû demander de quoi il s'agit, et il ne l'a pas fait parce que le preux vavasseur qui lui avait enseigné quelques règles de chevalerie, lui avait dit qu'il fallait ne point trop parler, ne point trop questionner, surtout quand on était un tout jeune chevalier. Donc Perceval se tait, et nous apprendrons par la suite qu'il aurait dû parler, s'il avait parlé, les enchantements maléfiques de ce château du Graal se seraient évanouis.
Perceval, c'est un des deux héros, mais il en est un autre que vous avez cité, c'est Gauvain. Perceval va surtout dans la forêt, Gauvain va surtout de ville en ville.
Oui, il y a un contraste très fort, voulu par Chrétien de Troyes, entre les aventures entrelacées de Perceval d'un côté et de Gauvain de l'autre. Perceval, c'est le jeune sauvageon, disons, agité, qui ne connaît pas encore les règles de la courtoisie et de la chevalerie. Gauvain, au contraire, neveu du roi Arthur, c'est le chevalier parfait, le chevalier mondain, qui plaît aux dames, qui fréquente les dames, qui participe à des tournois. Donc il y a un assez fort contraste entre les deux quêtes, les deux aventures de Perceval et de Gauvain que le lecteur suit pas à pas jusqu'à ce que le roman s'interrompe brusquement.
Oui, parce que tout est suspendu, qu'on n'attende pas que l'horizon soit atteint.
Non. Alors on peut se demander si le fait que le roman soit inachevé est dû, comme c'est probable, à la mort de Chrétien de Troyes. Mais est-ce qu'il avait prévu une fin explicative au récit de ses aventures étranges, ou est-ce qu'il avait voulu laisser le lecteur en suspension, en quelque sorte? On a l'impression que, dans sa quête, Perceval a rendez-vous avec le destin et que ce rendez-vous est un peu un rendez-vous manqué.
Mais de toute façon, il y a toujours un point de départ, et dont on espère qu'il soit un point de rencontre, de fête et de réunion, c'est la cour imaginaire du roi Arthur.
On vous écoute.
C'est à propos du Graal.
Du Graal ?
Nous sommes d'accord pour dire que depuis le début de cette quête, nous sommes à la recherche d'un vase ou d'une coupe, n'est-ce pas ?
Oui.
Eh bien, d'après mes derniers renseignements, il serait tout à fait possible que le Graal ne soit ni un vase, ni une coupe, mais un récipient.
Ça fait plaisir de voir que ça avance.
Mais je vous assure, vous auriez vu le vieil homme mystérieux qui m'a donné ses indications. Il a dit, méfie-toi, le Graal est un récipient.
Sans vouloir être blessant, est-ce que vous êtes sûr que ça change quelque chose?
Justement, je pense que ça pourrait être un début de piste.
Un début de piste? Alors maintenant, dès que Clodo vient nous taper deux ronds pour picoler, on tient une piste.
À ce moment-là, moi aussi j'en ai des pistes. Il y a un an au Pays de Galles, il y a un type tout bizarre qui vient me voir. Il me dit, oui, tatati, tatata, le Graal, en fait, c'est une pierre incandescente.
Quoi ?
Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui dit la même chose.
Le Graal est un objet dont Joseph d'Arimathie s'est servi pour recueillir le sang de Jésus.
Donc, un récipient.
Un récipient. Un vase ou une coupe, on peut bien recueillir du sang dedans, non ?
Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus, d'accord, je visualise. Mais avec une pierre incandescente, là, pardon, faut qu'on m'explique.
Kaamelott qui pose la question, la dernière. Qu'est-ce que le Graal ?
Oui, on aimerait bien savoir. Chrétien ne nous le dit pas explicitement. Il présente le Graal comme un calice contenant une hostie nourricière. Ses successeurs en feront un calice contenant le sang versé par le Christ sur la croix. Wolfram von Eschenbach en fera une pierre magique dispensant des rayons lumineux tout autour d'elle. Puis plus tard, on aura encore d'autres hypothèses, plus ou moins métaphoriques. Le Graal, c'est l'objet d'une quête, quelle que soit cette quête, et un objet qui n'est pas fait pour être atteint. Ça concerne un peu chacun d'entre nous. Nous sommes sur le chemin de la quête. Nous avons hâte d'y parvenir vers cette fin, et nous ne l'atteignons pas.
Nous sommes en suspens. Merci, Michel Pastoureau. Demain, le chemin s'ouvre sur les bestiaires médiévaux. L'émission a été préparée par Martin Cellier. La réalisation, c'était Stéphane Ronxin. Élise Christophe à la technique. Et donc demain, le troisième épisode des textes illustres du Moyen-Âge.